3. Roland en avait déjà entendu une bonne partie, mais sans mesurer complètement à quel point la situation dans laquelle ils se retrouvaient était complexe. Ils étaient propriétaires du terrain vague sur la 2e avenue, certes, mais le fondement sur lequel reposait cette propriété était un document holographique qui aurait paru plus que contestable devant un tribunal, particulièrement si les puissances qui étaient de la Sombra Corporation lâchaient leurs avocats sur cet os-là. Eddie voulait porter cette assignation à Moses Carver, s'il le pouvait, ainsi que cette information d'importance. Sa fille, elle, Odetta Holmes, portée disparue depuis 13 ans à l'été 1977, était vivante et en bonne santé et souhaitait par-dessus tout que Carver assume la garde, non seulement du terrain vague lui-même, mais de certaines roses sauvages qui y poussaient. Il faudrait se montrer suffisamment convaincant auprès de Moses Carver, s'il était toujours en vie, pour faire absorber la Tet Corporation par les industries Holmes et vice-versa. Et ce n'était pas tout. Il faudrait qu'il consacre le temps qu'il lui restait à vivre, et Eddie avait dans l'idée que Carver devait approcher de l'âge d'Aaron Dipno à l'époque, à bâtir un géant de la finance et de l'industrie dont le seul but réel serait de contrecarrer les projets de 2 autres géants, Sombra et North Central Positronics, et de les attendre à chaque tournant, voire de les prendre à la gorge et de les achever pour les empêcher de devenir un monstre, laissant derrière lui son sillage de mort dans les terres ravagées de l'entre-deux-monde, et blessant mortellement la tour sombre elle-même.
Peut-être qu'on aurait dû laisser cette signation à Sai Dipno, dit Roland après qu'Eddie eut fini de lui présenter la situation. Au moins, il aurait pu localiser ce Carver et lui raconter notre histoire à notre place.
Non, on a bien fait de la garder. C'était bien là une des rares choses dont Eddie était certain. Si on avait laissé ce bout de papier à Aaron Dipno, tu peux être sûr qu'il serait réduit en cendres à l'heure qu'il est.
Tu penses que Tower se serait repenti d'avoir signé le marché et qu'il aurait persuadé son ami de détruire l'acte?
Je le sais, affirma Eddie. Mais même si Dipno avait réussi à tenir tête au blabla infernal de son vieil ami pendant des heures et des heures, « Brûle-le, Aaron. Ils m'ont forcé la main, et maintenant ils veulent me pigeonner. Tu le sais aussi bien que moi. Brûle-le, et on pourra envoyer les flics aux trousses de ces momsers. » »« Tu penses vraiment que Moses Carver croirait une histoire aussi frappadingue ?»
Roland eut un pâle sourire.
« À mon avis, le problème ne serait pas qu'il la croit ou pas, Eddie. Parce que si tu y réfléchis une seconde, je te prie, quelle proportion de notre histoire frappe à dingue Aaron Dipno a-t-il seulement entendu?
Pas assez, convint Eddie.
Il ferma les yeux et appuya la base de ses paumes contre ses paupières.
Fort. Je ne vois qu'une personne qui serait capable de convaincre Moses Carver de faire ce qu'on lui demandera de faire. Et pour l'instant, elle est occupée ailleurs, pendant l'année 99. Et d'ici là, Carver sera aussi mort que Dipno, et peut-être que Tower lui-même.
Eh bien, que peut-on faire sans elle? Qui te donnerait satisfaction?
Eddie se disait que peut-être Susanna pourrait revenir en 1977 sans eux, puisque elle, au moins, n'y était pas encore venue. Enfin, elle était venue Vahadash, mais pour lui ça ne comptait pas vraiment. Il supposait qu'elle se retrouverait peut-être bannie de 1977 sur le simple prétexte qu'elle faisait partie du quatet de Roland et d'Eddie. Ou sur d'autres prétextes d'ailleurs. Eddie n'en savait rien. Lire toutes les clauses avant de signer pour trouver la petite bête n'avait jamais été dans ses habitudes. Il se tourna vers Roland pour lui demander son avis, mais Roland le devança.
« Et notre Dantette ?»
Eddie avait beau comprendre le terme, il signifiait « bébé Dieu » ou « petit sauveur ». Il ne comprit pas tout de suite où le pistolero voulait en venir. Puis subitement, tout lui parut clair. Leur danne-tête de Waterford ne leur avait-il pas prêté la voiture dans laquelle ils se tenaient en ce moment même ? Grand merci.
Kellem, c'est de lui que tu veux parler, Roland ? Le type avec sa vitrine pleine de balles de baseball dédicacées ?
Tu dis vrai, répondit Roland. Il parlait de ce ton sec qui révélait non pas de l'amusement, mais une légère exaspération.
Et surtout, ne laisse pas déborder ton enthousiasme devant cette idée.
Mais tu lui as dit de s'en aller, et il était d'accord pour partir.
Et tu trouves qu'il se réjouissait vraiment d'aller rendre visite à son ami dans le Vermont ?
Vermont, corrigea Eddie, incapable de réprimer un petit sourire.
Pourtant, sourire ou pas, ce qu'il ressentait le plus fortement, c'était un profond désarroi. Il avait dans l'idée que cet horrible raclement qu'il entendait en imagination était la main droite à deux doigts de Roland, en train de fourrager au fond du canon. Roland haussa les épaules, comme s'il se moquait complètement que Cullum ait parlé de se rendre dans le Vermont ou dans la baronnie de Garlan.
« Réponds à ma question. »
« Eh bien, Cullum n'avait pas exactement exprimé de l'euphorie à l'état pur à l'idée de partir. Depuis le début, il avait plus réagi comme l'un des leurs que comme l'un des mangeurs d'herbe parmi lesquels il vivait. Eddie reconnaissait les mangeurs d'herbe avec une facilité déconcertante, puisqu'il en avait été un lui-même avant que Roland vienne le kidnapper et commence à lui enseigner ses leçons de tuerie. Cullum avait été très intrigué par les pistoleros et curieux de savoir ce qui les amenait dans cette petite ville. Mais Roland avait su se montrer très emphatique et il avait le don de se faire obéir des gens. À présent, il dessinait des moulinets avec sa main droite, son vieux geste d'impatience.
« Fais vite, au nom de ton père, chie ou descends de la chaise. »
J'imagine qu'il n'avait pas vraiment envie d'y aller, mais ça ne veut pas dire qu'il soit toujours chez lui à East Stoneham.
Pourtant, il y est. Il n'est pas parti.
Eddie réussit tant bien que mal à empêcher sa mâchoire de s'ouvrir en grand.
Comment le sais-tu? Tu es entré en contact par le Shining, c'est ça?
Roland secoua la tête.
Alors comment?
Le cas.
Le cas? Le cas? Et qu'est-ce que c'est censé vouloir dire, bordel?
Roland avait le visage hagard et épuisé et la peau blême en dessous de son bronzage.
Qui d'autre connaissons-nous dans cette partie du monde?
Personne, mais
alors c'est lui.
Roland s'exprimait d'une voix monocorde, comme s'il se contentait d'énoncer des évidences à un enfant. En haut, c'est au-dessus de sa tête. En bas, c'est vers tes pieds. Eddie s'apprêtait à lui répondre que c'était stupide, rien que de la pure superstition, mais il décida de se taire. Si on acceptait Dipno, Tower, Stephen King et cette horreur de Jack Andolini, John Cullum était bel et bien la seule personne qu'il connaissait dans cette partie du monde, ou à ce niveau de la tour. Et après ce qu'Eddie avait vu au cours des derniers mois, bon Dieu, au cours de la dernière semaine, qui pouvait-il accuser de céder à la superstition?
D'accord, admit le jeune homme. On devrait peut-être tenter le coup.
Comment entrer en contact avec lui?
On peut l'appeler de Bridgeton, mais dans une histoire, Roland, un personnage secondaire tel que John Cullum ne quitterait jamais le banc des remplaçants pour venir sauver la partie. On ne trouverait pas ça réaliste.
Dans la vie, répliqua Roland, je suis certain que ça arrive tout le temps.
Et Eddie éclata de rire. Qu'est-ce qu'il pouvait bien faire d'autre? C'était du Roland tout craché. 4. Bridgeton, Rue principale. 2. Island Lake. 3. Harrison. 5. Waterford. 9. Sweden. 13. Lovell. 27. Freiburg. 36. Il venait tout juste de dépasser ce panneau quand Eddie se tourna vers Roland. Fouille un peu dans la boîte à gants, histoire de voir si le cas ou le rayon ou je ne sais qui d'autre ne nous aurait pas laissé un peu de monnaie pour la cabine.
La boîte à... Tu veux dire ce petit panneau-là?
Ouais. Roland commença par essayer de tourner le petit bouton chromé qui se trouvait au milieu, puis changea de tactique et appuya dessus. Le contenu de la boîte n'était pas bien excitant, et leur petite escapade en apesanteur n'avait rien arrangé. Il vit des reçus de cartes de crédit, un très vieux tube de pâte à dents qu'Eddie appelait « du dent qui frise ». Roland put déchiffrer les mots « Holmes dentaire », presque sans effort. Une photographie montrant une petite fille tout sourire, la nièce de Cullum peut-être bien, à dos de poney. Un bâtonnet qu'il prit d'abord pour de la dynamite, et dont Eddie lui expliqua qu'il s'agissait d'une fusée de détresse à utiliser en cas d'urgence. Un magazine et une boîte à cigares. Roland ne put lire le mot inscrit dessus, mais ça ressemblait à « plage ». Il montra la boîte à Eddie, dont le regard s'éclaira.
« Ça dit « péage », commenta-t-il. « Tu as peut-être raison concernant Cullum et le cas. Ouvre-la, Roland, s'il te sied. »
L'enfant qui avait confectionné cette boîte l'avait décorée d'un petit loquet charmant et plutôt maladroit sur le devant pour la tenir fermée. Roland le fit glisser, ouvrit la boîte et exposa au regard d'Eddie un grand nombre de pièces de monnaie d'argent.
« Est-ce que ça suffira pour appeler la maison de Cy Cullum ?»«
Ouais, on dirait bien qu'il y aurait de quoi appeler Fairbanks en Alaska. Mais ça ne nous sera pas d'une grande utilité si Cullum est en route pour le Vermont. »
5. La place centrale de Bridgeton était flanquée sur un de ses côtés d'une épicerie et d'une pizzeria. Une salle de cinéma, la lanterne magique, et un grand magasin, Rennie's, leur faisait face. Entre le cinéma et le grand magasin apparaissait un petit recoin équipé de bancs et de 3 cabines téléphoniques. Eddie passa la main dans la boîte de Cullum et en sortit $6 en petite monnaie qu'il tendit à Roland.
« Je veux que tu ailles là-bas, » dit-il en montrant l'épicerie du doigt, « et que tu m'achètes une boîte d'aspirine. Tu sauras la reconnaître ?»«
De l'astine, je la reconnaîtrai. » »«
Je veux la plus petite taille de boîte, parce que $6, ça ne fait pas lourd. » Ensuite, va juste à côté, dans la boutique qui s'appelle Pizza et Sandwich de Bridgeton. S'il te reste au moins 16 de ces petites pièces, dis-leur que tu veux un grand mixte.
Roland opina de la tête, ce qui ne suffit pas à Eddie.
Je voudrais t'entendre le dire.
Un mixte.
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 Mi?
Eddie abandonna.
Roland, et c'est club pour voir.
Club.
Très bien. S'il te reste au moins 16 de ces pièces, demande un club. Tu saurais dire avec plein de maillots?
Plein de maillots.
Ouais. S'il t'en reste moins de 16, demande un sandwich au salami. Dis bien sandwich, pas popkin.
Un sandwich au salami.
Ça fera l'affaire. Et ne dis rien d'autre, sauf si c'est vraiment nécessaire.
Roland hocha la tête. Eddie avait raison, il valait mieux ne pas parler. Il suffisait aux gens de le regarder pour savoir, au fond d'eux-mêmes, qu'il n'était pas du coin. Et ils avaient une fâcheuse tendance à s'écarter sur son passage, autant ne pas en rajouter. Le pistolero porta la main à sa hanche gauche en se retournant. Une vieille habitude qui, cette fois-ci, ne lui procura aucun soulagement. Ces deux revolvers se trouvaient dans le coffre de la galaxie de Callum, enroulés dans leur ceinturon. Avant qu'il ait pu s'éloigner, Eddie l'attrapa par l'épaule. Le pistolero pivota, les sourcils arqués, et posa ses yeux délavés sur son ami.
On a une expression dans notre monde, Ralent. On dit « faire contre mauvaise fortune bon cœur ».
Ce qui veut dire
« exactement ce qu'on est en train de faire, mon vieux. Souhaite-moi bonne chance. »
Ralent hocha la tête.
Si fait, je te la souhaite. Je nous la souhaite à tous deux.
Il s'éloignait déjà quand Eddie le rappela. Cette fois-ci, il lut sur le visage du pistolero les signes d'une légère impatience.
« Ne te fais pas tuer en traversant la rue !»
lança le jeune homme, avant de se mettre à imiter le parler de John Callum.
« Il y a des types peaux bien embouchés et ils vont pas à cheval. »
« Va passer ton appel, Eddie, »
répondit Roland avant de traverser la grande rue de Bridgeton avec une lente assurance. Et cette démarche chaloupée de laquelle il avait parcouru 1000 autres grandes rues dans 1000 autres petites villes. Eddie l'observa un moment, puis se tourna vers le téléphone et parcourut la notice. Puis il décrocha le combiné et composa le numéro des renseignements.
6.
Il n'est pas parti,
avait dit le pistolero avec cette certitude impassible en parlant de John Callum.
Et pourquoi?
Parce que Callum était l'autre bout du fil. Il n'avait personne d'autre à appeler. Autrement dit, encore un coup du foutu vieux cas de Roland de Gilead. Après une brève attente, l'opératrice des renseignements lui cracha le numéro de Callum. Eddie essaya de le mémoriser. Il avait toujours été bon pour se rappeler les chiffres. Henry l'appelait parfois le petit Einstein. Mais cette fois-ci, il ne se sentit pas très assuré. Il avait l'impression qu'il était arrivé des bricoles ou bien à ses facultés de penser en général, ce qu'il ne croyait pas vraiment, ou bien à sa capacité à se remémorer certains artefacts de ce monde, ce qui lui paraissait plus plausible. En réclamant le numéro pour la deuxième fois, ce coup-ci il le nota sur la couche de poussière qui s'était accumulée sur la petite tablette de la cabine. Eddie se surprit à se demander s'il serait toujours capable de lire un roman ou de suivre l'intrigue d'un film à partir des images se succédant sur l'écran. Il en doutait pas mal. Et quelle importance ! Juste à côté, la lanterne magique jouait la guerre des étoiles. Et le jeune homme se dit que, s'il arrivait dans la clairière au bout du sentier sans avoir revu Luke Skywalker ni entendu la respiration poussive de Dark Vador, il ne s'en porterait pas plus mal.
« Merci, madame, » dit-il à l'opératrice. Et il s'apprêtait à composer le numéro quand une série d'explosions derrière lui le fit sursauter. Il pivota, le cœur battant à tout rompre, la main droite plongeant instinctivement à la ceinture, prêt à affronter des loups ou des écumeurs ou peut-être même ce salopard de Flag. Mais il ne vit qu'une brochette de gamins assis sur un canapé, leur visage niais et bruni par le soleil complètement hilar. L'un d'eux venait de lancer un chapelet de pétards, sans doute un reste du 4 juillet. Les mêmes que ceux avec lesquels jouaient les gamins de Calabrin Sturgis.
Si j'avais eu un pistolet sur moi, j'aurais probablement descendu deux ou trois de ces morveux, se dit-il. Tu veux faire l'andouille? Ben voilà une bonne façon de commencer.
Oui, très bien. Et peut-être aussi qu'il n'en aurait rien fait. Quoi qu'il en soit, il lui fallait bien admettre qu'il n'était plus vraiment en sécurité dans ces contrées plus civilisées.
« Faudra t'y faire, »
murmura-t-il, avant d'ajouter l'expression fétiche du grand sage et éminent junkie face aux petits problèmes de la vie.
« Mon pote !»
Il composa le numéro de John Callum sur le vieux cadran rotatif. Et lorsqu'il entendit une voix de robot,
l'arrière-arrière-arrière-grand-mère de Blaine le Mono, peut-être, lui demander d'insérer 90 cents. Eddie mit $1. Au diable l'avarice, il était en train de sauver le monde. La sonnerie retentit une fois, puis deux, et on décrocha.
« John !» hurla presque Eddie. « Bordel, mon pote, John, c'est... »
Mais à l'autre bout, la voix répondait déjà. En digne enfant de la fin des années 80, Eddie savait que ça n'augurait rien de bon.
« Êtes bien chez John Kellem, de l'entreprise Kellem, petits travaux et entretiens. » fit la voix de Kellem avec son fameux accent traînant du Sud. « J'ai dû m'absenter en urgence, voyez-vous, et je peux pas dire exactement quand je serai de retour. Si ça cause du dérangement, je vous en demande bien pardon. » Vous avez qu'à appeler Gary Cromwell au 926-55-55 ou Junior Baker au 929-42-11.
Le découragement d'Eddie, son découragement, comme aurait dit Kellem, avait fondu comme neige au soleil dès qu'il avait entendu la voix du bonhomme dire qu'il ne savait pas exactement quand il serait de retour. Parce que Kellem était là, dans son petit terrier de hobbit sur la rive ouest de l'étang de Kewadin, assis dans son canapé bien rembourré de hobbit, ou bien dans un de ses fauteuils de hobbit assortis, assis là, à filtrer ses appels grâce à sa vieille guimbarde de répondeur du milieu des années 70. Eddie le savait parce que... Eh bien... Parce qu'il le savait, point barre. L'enregistrement sommaire ne parvenait pas à masquer la pointe d'humour qui perçait dans la voix de Kellem à la fin de son message.
« Bon, et si vous êtes toujours décidé à causer à votre serviteur, ben laissez un message après le bip sonore, mais la faites pas trop longue. »
Le dernier mot sonnait comme « langue ». Eddie attendit le bip et articula «
C'est Eddie Dean à l'appareil, John. Je sais que vous êtes là, et je crois même que vous attendiez mon appel. Me demandez pas pourquoi je crois ça, parce que, pour dire vrai, je n'en sais rien, mais... »
Dans son oreille résonna un grand raclement, et la voix de Kellem, sa voix en direct, lui répondit.
« Salut, fiston. On dirait que mon cas vous intéresse toujours. »
L'espace d'une seconde, Eddie se retrouva trop confus pour réagir, car il avait entendu...
« On dirait que mon cas vous intéresse toujours. »«
Gamin, t'es toujours dans la course ?» s'enquit la voix soudain inquiète de Kellem.
« Ouais, » fit Eddie. « Et vous aussi, je croyais que vous étiez en route pour le Vermont, John. »«
Eh bien, je vais te dire une chose. On s'est pas autant amusé dans ce bled depuis que le marchand de chaussures de Southamptonham a flambé en 1923. » La flicaille avait bloqué toutes les routes autour de la ville.
Eddie était sûr et certain que la flicaille laissait sortir ceux en mesure de montrer des papiers en règle, mais il préféra se concentrer sur un autre sujet.
« Vous essayez de me faire croire que vous n'auriez pas réussi à quitter la ville sans voir un seul flic si vous en aviez eu envie ?»
Il y eut une courte pause. Eddie sentit quelque chose à côté de lui. Sans se retourner, il sut que c'était Roland. Qui d'autre en ce bas monde baladerait cette odeur, subtile mais inimitable, d'un autre monde?
« Oh, eh ben !» finit par répondre Kellem. « Peut-être bien que je connais une ou deux routes à travers bois qui ressortent de Lovell. L'été a été sec, alors je pense bien que mon camion passerait sans problème. »
« Une ou deux ? » ?»«
On va dire trois ou quatre. »
Silence. Eddie n'intervint pas. Il s'amusait trop pour ça.
On peut arrondir à 5-6,
corrigea Kellem. Une fois encore, Eddie choisit de ne pas piper mot.
Et 8,
finit par lâcher Kellem. Et quand Eddie éclata de rire, Kellem se joignit à lui.
Qu'est-ce que t'as derrière la tête, fiston?
Eddie jeta un regard vers Roland, qui tenait une boîte d'aspirine entre les deux doigts rescapés de sa main droite. Eddie s'en empara avec reconnaissance.
« Je voudrais que vous veniez à Lovell. Il semblerait qu'on est encore un peu à palabrer, en fin de compte. »«
Pour sûr. Et on dirait bien que j'étais au courant, » fit Kellem.
même si j'en étais pas vraiment conscient. J'arrêtais pas de me dire « Je vais prendre la route pour Montpellier, vite fait. » Et pourtant, je me retrouvais avec des tas de trucs à faire ici avant de partir. Si t'avais appelé il y a 5 minutes, ça aurait sonné occupé parce que je causais avec Charlie Beamer. C'est sa femme et sa belle-sœur qui se sont fait tuer à l'épicerie, tu vois. Et puis je me suis dit « Bon sang, je vais faire un grand coup de ménage avant de partir, avant de charger mon barda dans le camion et de prendre la route. » Rien de bien extraordinaire, mais je crois bien que j'attendais ton appel depuis que je suis rentré ici. Où vous allez? Au chemin du dos de la tortue?
Eddie ouvrit avidement la boîte d'aspirine et contempla les petits cachets sagement alignés. Drogué un jour, drogué à vie, constata-t-il, même pour ces trucs-là.
Pour sûr,
fit-il en se moquant à peine. Il avait attrapé le truc des accents régionaux depuis ce jour où il avait vu débouler Roland dans un Delta 901 en descente sur Kennedy Airport.
Vous disiez bien que ce chemin représentait juste un crochet de 3 kilomètres à partir de la route 7, pas vrai?
Bien vrai. Il y a de sacrées belles maisons sur le chemin du dos de la tortue.
Il marqua un temps d'arrêt pour réfléchir.
Et un paquet qui sont à vendre. On a repéré pas mal d'entrants dans ce coin-là récemment. Je vous l'ai dit, il me semble. Ce genre de choses, ça rend les gens nerveux, et les riches, du moins, ils peuvent se permettre de partir quand ça les empêche de dormir.
Eddie ne pouvait plus attendre. Il engloutit 3 aspirines, dégustant leur goût amer, quand il les sentit se dissoudre sur sa langue. Mais bien que la douleur fût lancinante, il aurait pu en supporter 2 fois plus si seulement il avait eu des nouvelles de Susanna. Mais elle restait silencieuse. Eddie avait l'impression que la ligne de communication entre eux, déjà aléatoire, avait été réduite à néant par l'arrivée du satané bébé de Mia.
« Les gars, vous feriez bien de garder vos feux à portée de main si vous avez l'intention d'aller sur le chemin du dos de la tortue à Lovell, » conseilla Cullum. « Pour ma part, je crois bien que je vais mettre ma carabine dans le camion avant de lever les voiles. »«
Pourquoi pas ?» convint Eddie. « Cherchez donc votre voiture sur le chemin, elle y sera. »«
Pour sûr, impossible de rater cette vieille galaxie. »
acquiesça Cullum.
« Dis-moi une chose, fiston, je vais pas dans le Vermont, mais j'ai comme l'impression que vous voulez m'envoyer quelque part, si je suis d'accord. Ça t'ennuierait de me dire où ?»
Eddie pensa que Mark Twain aurait sans doute intitulé le chapitre suivant « Des aventures trépidantes de John Cullum, un petit gars du Maine dans la cour du roi cramoisi. » Mais il le garda pour lui.
« Vous êtes déjà allé à New York ?»
« Bon de là, oui. J'y ai fait escale pendant 48 heures quand j'étais dans l'armée. »
Le dernier mot traîna de manière un peu ridicule.
« Je suis allé au Radio City Music Hall et à l'Empire State Building. Ça, au moins, je m'en souviens. J'ai dû voir 2 ou 3 autres trucs pour touristes parce que je me suis fait soulager de 30 billets et que 2 mois plus tard, on a diagnostiqué une belle chaux de pisse. »
Cette fois, vous serez trop occupé pour la chaux de pisse. Prenez vos cartes de crédit. Je sais que vous en avez parce que j'ai vu des facturettes dans votre boîte à gants.
Il ressentit la pulsion presque maladive de prononcer les derniers mots à la Cullum, boîte à gants.
Sacré grabuge là-dedans. J'intuite ?
Demande le bonhomme d'un ton égal.
Pour sûr, on dirait les restes d'une chaussure après que le chien se serait amusé avec. « On se verra à Lovell, John. »
Eddie raccrocha. Il jeta un œil au sac que portait Roland et haussa les sourcils.
« C'est un sandwich club, » fit le pistolero, « avec plein de maillots, comme tu dis. Personnellement, j'aurais préféré une sauce qui ressemble moins à du foutre, mais du moment que ça te sied... »
Eddie écarquilla les yeux.
« Bon sang, voilà qui donne vachement faim. »
« Tu dis vrai ?»
Eddie dut se rappeler une nouvelle fois que Roland n'avait quasiment aucun humour.
« Je le dis. Viens, je peux manger mon sandwich fromage foutre en conduisant, et puis il faut qu'on discute de la suite. »